Non, non, bouge pas.
Voilà, on appartement s'installe tranquillement. Pensez à éteindre vos portables, ceux qui ont des portables allumés. C'est bien de le dire, parce que des fois c'est.
C'est parti ou pas?
Voilà. Bonjour à tous. Merci.
Ah, c'est du bruit.
Du vent dans les voiles.
Il y a du vent dans les voiles. Merci de votre présence. Merci et bienvenue aux gens que je ne connais pas, qui m'ont su certainement par des voix de presse ou des jeunes, et puis d'être là parmi nous. Alors pourquoi nous sommes là? Bon, dans un premier temps, c'est pour accueillir Nils, si vous en rappelez. Dans un second temps, c'est pour l'Assemblée générale de l'association Les Voiles Carrés. L'association qui a 23 ans, hein, qui, les buts principaux sont l'embarquement de publics en difficulté, notamment des mineurs délinquants récidivistes en partenariat avec le ministère de la Justice. Alors, bien sûr, en tant que passionné également, moi, en marin et passionné de bateau, je suis de près les courses de bateau. Et quand je vois, en 2018, le départ de la route du Rhum de Saint-Malo, Saint-Malo-la-Guadeloupe, je suis attentivement parce que, bien évidemment, le vétéran de la course, Bob Escoffier, que vous allez voir tout à l'heure, qui va être parmi nous, hein, que je connais bien, qui a un ami depuis 20 ans, prenait le départ. Et je vois que le plus jeune de la course, que je connaissais de nom, mais pas de contact direct, je lui dis, le jeune Yvan Bavet. Le pauvre, il a pris comme sponsor le choix funéraire. Je me suis dit, le choix funéraire pour un petit jeune, ça ne va pas être gagné pour lui. Je connais ce milieu-là, ils vont se foutre pas mal de lui. Mais quand, plusieurs jours plus tard, il finit la route du Rhum, sixième dans sa catégorie, à 22 ans, je dis bravo Nice. Et donc Nice, j'ai tout de suite, bon, vous connaissez un petit peu comme ça, certainement aussi comme ça, sans se rencontrer, et je lui dis Nice, je serais vraiment honoré que tu viennes à notre Assemblée Générale, parce que tu es quand même un exemple pour notre jeunesse, toi. La jeunesse que moi, en déshérence, que nous, on encadre à longueur d'année, qui n'a pas trop d'espoir ou qui ne veut pas en avoir, parce que ça les arrange bien de ne pas en avoir non plus. Tu sais, de dire, de toute façon, nous, personne ne nous aime, on n'est pas bon, on est nul. Eh bien, tu es l'exemple parfait que quand on veut aller au bout de ses convictions, quand on veut aller au bout de ses projets, comme nous, en associatif d'ailleurs, quand on décide de mettre tous les moyens qu'il faut, parce qu'on n'y arrive pas, mais au moins on aura essayé. Toi, tu l'as fait, tu as réussi, et c'est ça qui m'a touché, et c'était important pour moi que tu sois là aujourd'hui pour donner quelque part de l'espoir aux jeunes. Alors, on va accueillir Bob Escoffier, on peut l'applaudir. Donc, Bob, à mon ami Bob, alors c'est marrant, ce soir c'est quand même assez exceptionnel à Cherbourg, nous avons de l'édition 2018 de la Route du Rhum, nous avons le plus jeune concurrent, et nous avons le plus ancien qui a pris le départ. Voilà. Donc bienvenue Bob, bienvenue les amis de Saint-Malo. Donc voilà pourquoi Nils est là aujourd'hui. Maintenant j'ai assez parlé, c'est pas moi qui fais la conférence, c'est lui. Je te la laisse la parole Nils.
Merci bien. Enfin, c'est vraiment très sympa de m'avoir invité. Merci à tous les membres de l'association. Une association que je connaissais de nom. Et puis que j'ai appris à connaître grâce à Gérard et grâce aussi au Hall Gaffer. On voit derrière la banderole. L'association, et puis il y a des représentants ici, il y a Philippe le président, il y a Betty vice-présidente, Marie aussi, moi-même, et c'est là aussi où j'ai vraiment rencontré Gérard, et il m'a donné le but de cette association. Ça avait un sens pour moi, parce que quand j'avais 14-15 ans, j'ai participé à mener à bien différentes opérations, grand large, une association aussi bretonne, et qui fait sortir en mer des jeunes en difficulté. Donc j'en ai fait plusieurs éditions et ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Merci beaucoup. Alors j'ai de la chance d'avoir un vrai beau public aujourd'hui, ici présent. Je vais vous parler de mon aventure. Vous voyez le choix funéraire sur la pancarte à droite, là. Je suis pas là pour vous vendre des contrats obsèques, qu'on se le dise. C'est ce que je répète assez souvent, parce que je suis amené à faire beaucoup de conférences pour aller à la rencontre de mes partenaires, pour les remercier, puisqu'un partenariat, ça marche main dans la main. Et puis, il faut savoir remercier ses partenaires, c'est hyper important. Et c'est la base de beaucoup de choses. Je vais vous parler du rêve d'un gamin, avec des échecs, des moments de joie, et puis la réalisation d'un rêve. Et vous allez voir que ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Alors, j'ai 26 ans, hein, j'ai 26 ans, j'avais 24 ans au départ de la dernière Route du Rhum. 26 ans, je suis originaire de Saint-Malo, j'y suis né et j'y vis depuis toujours. Je suis le petit-fils d'un capitaine Terre-Neuve. Mon grand-père vivait dans le Finistère, il était capitaine sur le Zélande, c'était le plus gros navire de pêche au monde par le travers, à la morue, sur les bancs de Terre-Neuve. Et mon grand-père m'a raconté ces moments de mer un peu pas évidents, quoi, quand il partait 6 mois en campagne, avec 70 hommes d'équipage sur un bateau dans les années 50, 60, où les conditions étaient quand même compliquées. Il y en a parmi vous qui connaissent peut-être. Il m'a appris ce respect qu'il faut avoir pour les gens qui partent avec lui, pour pas qu'il y ait de conflit tout simplement, et aussi cet amour qu'il faut pour la mer. Et il m'a dit un jour, si tu veux faire de ton métier la mer, il faut d'abord que tu la respectes. Ça c'est une chose. Et du côté de mon papa, lui était dans sa vie, était préparateur de bateaux. Notamment, il a été à certains moments proche du bateau d'Alain Colas, le fameux Manureva que tout le monde connaît, je pense, ici. Et sur le premier Route du Rhum, en 78, Alain Colas disparaît. Mon père, ça a été une étape importante dans sa vie. Quelque chose, il s'est toujours dit, je pense, au fond de lui, à mon copain, il n'est jamais arrivé, quoi. Il n'est jamais arrivé au bout de cette Route du Rhum. Et je pense que lui-même aurait bien aimé réaliser ce rêve-là, un jour. Alors, tout petit, j'étais pas le gamin qu'on met sur un bateau. Ça, c'est assez étonnant. Jusqu'à mes 5 ans, si on me mettait ça à bord d'un bateau, je sautais à l'eau. Et ça m'est déjà arrivé. Et vraiment, j'avais une peur bleue de ça. Je ne voyais pas comment ça pouvait flotter. Ça faisait un peu la rage de mon grand-père, mais c'est comme ça. Et ensuite, j'allais beaucoup sur le port avec mon sac à dos, aider mon papa à préparer des bateaux, à gratter des coques, à tourner les boulons, à faire de la peinture, à mettre la main à la pâte. Et il m'avait dit, si tu veux faire de la mer ton métier, il faut que tu saches comment ça marche, il faut que tu travailles. On n'a pas tout cru dans la bouche, il faut que tu comprennes comment on fait pour travailler. Ça, je l'avais bien compris. Je suis observateur, curieux, j'ai beaucoup dit merci et on me l'a reproché plein de fois. J'ai plein d'exemples comme ça où on dit, arrête de dire merci. C'est vrai, j'étais toujours à proposer mon aide, à vouloir apprendre et comprendre ça. Mes parents n'avaient pas. Je suis pas né avec une cuillère en argent dans la bouche, ça c'est clair. Et mes parents n'avaient pas les moyens de m'inscrire à l'école de voile, si belle et si bien que je crois que j'ai fait une semaine d'école de voile dans ma vie. C'est avec l'école, puisque c'était obligatoire, avec la ville de Saint-Malo qui organise des stages pour les enfants. Donc j'ai participé à une semaine d'optimiste, mais sinon j'en ai jamais fait. J'en ai vraiment jamais fait. Donc j'ai pas ce parcours classique de celui qui est devenu navigateur, ou enfin, si ça se dit. Non, je suis parti de rien. Lorsque j'ai eu 11 ans, je le dis maintenant, mais j'ai eu un grave problème de santé qui a fait que j'ai été hospitalisé pendant 6 mois. C'était un moment dur quand on est gamin. C'est vraiment des moments pas faciles. Et il a fallu que je trouve un rêve, un objectif, quelque chose de très fort pour pouvoir m'en sortir. Alors, j'avais souvenir d'aller... au départ des courses avec mon père, la Route du Rhum part de Saint-Malo, c'est une chance, on peut aller sur les quais. J'avais participé en tant que bénévole déjà, quand j'avais 8-9 ans, au départ d'un rhum, à apporter le courrier sur les bateaux aux skippers. Ces skippers que je regardais avec des grands yeux. Je lui disais, il y a Bob au Rhum 2002, il y en a plein. C'était des héros pour moi, vraiment des héros. Donc je leur apportais le courrier, j'étais bénévole. Et je me suis dit un jour, peut-être que moi aussi je pourrais le faire. Pourrais réussir à faire une Route du Rhum. J'ai réussi à me mettre ça dans la tête, je m'en suis sorti aussi de cet hôpital, et après, pour différentes raisons, j'ai pas été très assidu à l'école. J'ai pas pu y aller vraiment beaucoup. Je faisais beaucoup de stages aussi à l'hôpital. Et j'ai eu la chance, quand j'étais sur le port avec mon père, de rencontrer des gens absolument fabuleux qui ont cru en moi et qui ont voulu me former. Des noms, j'en ai plein, mais des gens qui m'ont embarqué, qui m'ont dit bah, tiens, tu vas venir avec nous le week-end, en échange, tu passeras les jets d'eau sur le bateau, tu vas frotter le pont et on t'embarquera, on va t'emmener à Chauzet, on va t'emmener. Et j'ai appris, je me suis formé comme ça, à force d'être curieux et vraiment d'en vouloir. À 16 ans, j'ai fait une demande pour participer à la Route du Rhum 2010. Très vite, elle a été déboutée parce que j'étais mineur et il faut avoir 18 ans pour prendre le départ du Rhum. Donc, ça a été. Je voulais vraiment le faire. J'avais dans ma tête, j'avais de réaliser mon rêve le plus vite possible. Et quand on est un gamin, on est un peu. On a vraiment de l'énergie et pas mal d'ego, on a vraiment envie de réussir ça vite. Ça a été débouté, j'ai pas pu prendre le départ. J'ai dit, c'est pas grave, la prochaine fois j'y serai. Et à 19 ans, en 2014, à 3 mois du départ, j'ai pas de bateau, j'ai pas d'argent, mais pas un rond. Et par contre, j'avais eu l'idée de monter une association accompagnée de plein de copains qui s'appelle L'Au-delà. Ça n'a rien à voir avec le funéraire. Et quoi qu'il n'y a pas de hasard, on dit qu'avec des rendez-vous. Et je vous dirai après que c'est exactement pour ça que j'ai réussi à les séduire. Hein. C'est L'Au-delà. Tout le monde m'avait dit c'est un nom de merde, mais moi j'y croyais fermement. Une association qui s'appelle L'Au-delà, elle a besoin EAU, de là, d'ici, qui promeut, en fait, qui défend la qualité d'eau, de l'eau en Bretagne, et puis qui promeut une navigation durable avec un échange intergénérationnel. C'est-à-dire que je considère, moi c'est ma vision de la vie, considère qu'à partir de 55 ans, les gens qui, s'ils perdent leur emploi, ont beaucoup de mal à en trouver un nouveau. Et il y a aussi des jeunes retraités qui ont de l'or dans les mains, qui ont du savoir-faire, une expertise, qui ont plein de choses à apporter aux jeunes, quoi. Et je voulais qu'on crée une association intergénérationnelle autour de belles valeurs. Alors j'avais cette association-là, qui regroupait un vivier de personnes, et ils m'ont dit, eux, si tu veux faire le projet de la Route du Rhum, on va te suivre. On va bosser sur le bateau, on va s'engager et on va réussir à t'accompagner au bout de ton rêve. Et ça, c'est une grande force. Et comme il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous, je reçois un coup de téléphone août 2014, directeur de l'hôpital de Saint-Malo, qui me dit, je me souviens toujours, il me dit, voilà, j'ai eu votre numéro par un cadre de santé, il faut que je vous raconte un drame familial. Alors, j'étais pas prêt à entendre ça. Il y a quand même entre Saint-Malo et Cancale, il y a quand même 10 000 employés, dis donc, c'est pas rien. Et il me dit, mon beau-frère est décédé il y a 10 ans, nous avons un bateau qu'on aime beaucoup et qu'on n'est jamais retourné voir, et on a été prévenu par Jean-Luc Van Denede, l'ancien propriétaire, que ce bateau-là est à l'abandon et qu'il se dégrade et qu'il faut faire quelque chose. Alors il me dit, on a trois solutions. Soit on le remet à l'eau et on va le couler au large, il me l'a dit texto, hein. Soit on le fait découper, mais ça coûte 1000 euros par mètre et il fait 14 mètres. Et, ou alors soit on trouve un pigeon, j'aime bien dire ça, non, une association, quelqu'un motivé avec un projet, où on va savoir que le bateau va revivre. Et il me dit, je préférais choisir cette solution-là. J'ai pris ma voiture de suite, j'ai emmené mon papa, et je suis allé voir le bateau à La Roche-Bernard, il fallait le trouver déjà, il était sous un tas de ronces, vraiment un tas de ronces. Et je découvre ce bateau, une ligne magnifique. Il était garé sur le parking juste à côté du Spray, d'ailleurs, du Spray au Saint-Briac. Et sur la coque, il y avait marqué « Let's go », c'était son nom. Et là, je me suis dit, c'est un signe, il faut que j'y aille. J'ai appelé les membres de l'association, je leur ai dit « Vous me suivez ?» Ils m'ont suivi. J'ai même un médecin gériatre de Saint-Malo qui a pris un mois de congé sans solde. Il m'a dit « Je m'engage à fond avec toi, on a 3 mois pour mettre le bateau au départ, on va y arriver. » Et j'avais pas un rond. Et j'ai été chez les commerçants, à droite, à gauche, taper aux portes pour essayer de trouver des ronds, quoi. De quoi m'inscrire à la course, c'est pas loin de 8 000 euros, une inscription dans notre catégorie. L'assurance, des voiles, l'électronique, l'électricité, et encore, la main-d'œuvre, je savais que c'était nous, quoi. Donc j'avais pas ça à mettre sur la table. Et en 3 mois, on prépare un bateau, qui était une épave, et on arrive à faire quelque chose de navigable. Et dans le bassin de la route du Rhum, je me présente avec mon bateau, et je me souviens très bien, le journal Le Monde qui avait fait une interview sur le comparatif entre mon projet et celui de Loïc Perron avec la Banque Populaire. Il y a une phrase dans cet article où Loïc Perron il dit, si tous ceux qui étaient dans le bassin commençaient comme lui, peut-être qu'ils aimeraient mieux la mer. Quoi. Il disait en fait qu'il y avait des vraies valeurs quoi, et que parfois on commençait comme ça. Quoi. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. On pointait du doigt, mon bateau il était très étroit, 2,50 m de large, 14 m de long. Fallait y croire, quoi, vraiment. Et je prends le départ de cette course. Et malheureusement, deux jours après le départ, dans des conditions qu'on connaît musclées, je vois Bob au fond de la salle, il a été aussi confronté à ça. C'est comme un coup de fusil dans le bateau, la structure, donc les cloisons qui cassent. L'eau était remontée par capillarité dans les cloisons, on n'avait pas eu le temps de les changer. Et voilà, je suis. Le pont se désolidarise de la coque. Je manque de perdre le mât, enfin, c'était quand même pas rien. Et là, je suis obligé de me dérouter. Je rentre en point de Bretagne, enfin, dans un petit port. Je fais demi-tour, j'étais devant l'entrée de la Beurvrac. Je fais demi-tour dans 45 nœuds de vent et de la mer, j'arrive à Roscoff. Je retrouve quelques concurrents qui étaient là. Et là, mon équipe arrive, de bénévoles toujours. On répare le bateau, il me dit tu vas repartir. J'étais vidé. Quand on prépare un projet comme ça, avec une petite équipe, sans trop de moyens, on part fatigué. Et ça, c'était un vrai problème. Il me répare le bateau, et je repars le lendemain matin, et quelques heures après mon nouveau départ, à nouveau, c'est un gros coup de fusil cette fois-ci, les épontilles qui lâchent, et là, le bateau n'en voulait plus, quoi. N'en voulait plus. Je rentre au port, la mort dans l'âme, et j'arrive même pas à appeler de la direction de course pour dire que j'abandonne, je le fais faire, et je suis pas remonté sur mon bateau pendant 6 mois d'ailleurs. J'ai même pas ramené de Roscoff, bon bref. Mais j'avais quand même, dans mon plus petit budget là, j'avais quand même gardé un petit pécule d'argent qui me permettait, au cas où il m'arrive une grosse avarie, de remettre ce bateau en route pour qu'il puisse à nouveau naviguer, avec moi ou avec d'autres personnes. Et ça, je trouvais ça important que ce bateau y revive. Donc le bateau est revenu à Saint-Malo, il a été refait aussi par l'équipe de bénévoles une fois de plus. Et il y a quelque chose qu'on dit assez fréquemment, quand on tombe de cheval, la meilleure des solutions, c'est de remonter dessus pour aller mieux. Alors j'ai dit, c'est pas grave, dans 4 ans, j'y serai à nouveau. Et il se passe 3 années que j'appelle traversée du désert, où je navigue quand même pas mal, hein. J'ai fait beaucoup de courses, des traversées de la Manche, des Côtes d'Inard, j'ai gagné 7 fois la Côte d'Inard, des Fastnet, et plein de très, très jolies courses, ici en Méditerranée. Et Route du Rhum 2018 qui approche, je veux être au départ. Il y a une émulation incroyable autour de cette course, et de plus en plus, qui fait que les inscriptions sont closes très rapidement. Et lorsque je dis, il va peut-être falloir que je m'inscrive, je suis déjà en liste d'attente. Quoi. Et à quelques mois de l'échéance, à nouveau, le schéma se répète. C'est-à-dire que le bateau que j'avais, je ne voulais pas repartir dessus, l'histoire a été faite avec. J'avais toujours cette association-là. Et par contre, du coup, j'avais plus de bateau pour partir, et j'avais pas un rond. Et il fallait que je trouve une solution. Vous en avez certainement pris aussi des risques, vous tous dans la salle, et je crois que c'est important d'en prendre de temps en temps. Je vois un bateau à Saint-Malo qui me plaisait beaucoup, que les gens dans le fond de la salle connaissent bien l'histoire d'ailleurs, qui était le long d'un quai. Alors c'était un propriétaire qui l'avait acheté 8 ans auparavant, qui ne l'avait pas entretenu et qui était pas beaucoup monté dessus, on va dire. Le bateau était pas pillé, mais pas loin. Il n'y avait plus de voile, les câbles du mât étaient changés, il n'y avait plus d'électronique, plus d'électricité, le moteur était bloqué, les safrans, le gouvernail, on ne pouvait même plus toucher, enfin, c'était les moules qui. C'était complètement mort. Et je dis, par contre, ce bateau-là, il est bien construit. Je le savais, ça, qu'il était bien construit. Je savais exactement comment il était construit aussi. Et je dis, il peut m'emmener de l'autre côté, ce bateau-là, en toute sécurité. Ça sera celui-là. Et j'appelle le propriétaire de ce bateau-là. On m'avait dit qu'il était un peu fou. Je l'appelle et je lui dis, voilà, je vous propose de vous louer votre bateau si vous me permettez d'avoir un loyer assez modéré. Et en échange, je vous fais une remise à niveau complète du bateau. C'est-à-dire que je prenais un pari, j'avais pas un centime. Je vais voir un ami notaire à Saint-Malo et je lui dis, il faut que tu me fasses un truc dans les clous. Un truc qui tienne la route, bien écrit, avec des belles phrases. faut que ça ait l'air sérieux, quoi. Et on fait un super contrat où, en gros, en bas de la page, je m'engage à mettre 150 000 euros dans le bateau, quoi. C'est ça, ni plus ni moins que ça. Et on se rejoint avec le propriétaire et on signe ce contrat. J'ai pas un rond dans la poche, je vous jure. Et il me dit, pour le premier versement, c'était 625 euros le premier versement. Il me dit, vous faites comment? Merde, j'ai oublié le carnet de chèque à la maison, j'habite à 200 mètres. Mais je pouvais même pas mettre du gasoil dans mon camion, j'étais venu à pied. C'est véridique. Et je signe ce contrat-là. Et je me dis, quelle merde, tu t'es embrayé, là, c'est pas possible d'avoir fait ça. Et il me dit, bah d'accord, il était persuadé que j'avais l'argent. Vous me paierez la semaine prochaine. Je file à Saint-Malo, à Tramuros, et là je tape aux portes. Les commerçants, tout le monde. Je dis, est-ce que vous pouvez me filer un coup de main? Parce que je me suis engagé dans un truc, et puis j'ai du positif qui ressort de là, quoi. J'ai des gens qui disent, bah maintenant que t'as un peu de concret, nous on va t'aider. Il y en a un qui me dit, moi je vais payer un petit bout du premier loyer. L'autre qui me dit, je vais payer un peu de place de port, un peu d'assurance. Et j'ai quelqu'un qui tient plusieurs hôtels à Saint-Malo, qui me dit, bah moi je voudrais bien t'aider, mais je vais t'avancer le montant de l'inscription, parce qu'il va être temps que tu t'inscrives. C'était limité à 100 places, après ils ont augmenté à 120. Quand je me suis inscrit, j'étais le 23e sur liste d'attente, donc 123e, et je crois qu'il y avait 145 demandes, donc 150 demandes, donc c'était beaucoup quand même. Et ils m'ont dit, ok, vous êtes sur liste d'attente, on encaisse votre chèque, mais on ne sait pas si vous serez inscrit, quoi. Moi, je venais de signer un contrat avec 150 000 euros de dépenses. Je savais pas où j'allais, j'avais pas un rond. Et je dis, c'est pas grave, on va y aller. Donc, le partenaire hôtelier m'avance quand même les 8 000 euros. Là. Je viens juste de finir de le rembourser, d'ailleurs. Mais j'ai dû rembourser, c'est important. Et puis, je ne sais pas si je suis inscrit. On arrive à mettre le bateau en chantier avec des petits sous, avec des copains, avec une entraide incroyable. Je vois Philippe Delorme qui est dans le fond de la salle. Philippe, il est menuisier. Alors, on a un soir, on a dessiné des plans pour inventer un berre pour sortir le bateau de l'eau. Le bateau, il a 4 mètres de quille, on n'a rien pour le poser. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui faisait du déménagement, qui nous a offert un container, une autre personne qui m'a prêté son Noxy Cooper, machin. On a découpé le container par le dessus et par le dessous, et on a rentré le bateau dedans. Et Philippe l'a calé avec des bouts de bois, super, magnifique. Ah ouais, mais c'était magnifique notre truc, mais il fallait y croire, quoi, vraiment. Et on arrive à sortir le bateau de l'eau avec des petits moyens, et on engage le chantier. Et j'ai toujours pas de rond. Je peux pas commander mes voiles, je vois le temps qui passe, c'est quand même pas évident. Et puis, vous savez, quand on cherche des financements comme ça, on envoie des dossiers. On a beau avoir un peu de réseau au fur et à mesure, il faut quand même trouver des ronds, quoi. On envoie des dossiers, j'en ai envoyé 1000 dossiers. J'ai envoyé 1000 dossiers à des boîtes de la région, de Saint-Malo, puis nationales aussi, hein, et à tout mon réseau. J'avais des réponses négatives, ça c'est clair, et j'avais très peu de réponses positives, voire même aucune, sauf un moment, une boîte qui m'appelle, qui me dit voilà, je vous appelle pour le compte du dirigeant du choix funéraire. Et là j'ai 24 ans, je suis dans ma voiture, pied du bateau, et je dis oh, bon, ça quand même, c'est... Et si, il voudrait vous rencontrer parce qu'il a eu vent de votre histoire. C'est une société qui est basée à 20 km de Saint-Malo. Moi, c'était inconnu au bataillon pour moi, je connaissais vraiment pas. Et rendez-vous est pris. Je me rends à ce rendez-vous-là. Je rencontre, vous savez, le parfait cliché qu'on a des gens qui bossent dans le funéraire, le costume 3 pièces. Voilà. Propre, salut. Costume 3 pièces, il me reçoit. Il me dit voilà, j'ai fondé ce réseau il y a 25 ans dans mon garage, tout seul. Votre histoire, elle me parle, j'aime la mer. Il me dit par contre, j'avais apporté un beau dossier, il me dit par contre, n'ouvrez pas votre dossier parce que on n'a pas de sous et ça ne m'intéresse pas. Il me dit par contre, je pourrais peut-être vous ouvrir mon réseau un peu. Et il me dit, j'ai eu l'idée par contre que vous veniez à notre rendez-vous annuel, une convention annuelle du choix funéraire, qui se tenait à Dinard cette année-là. Et il me dit, c'est vrai que c'est l'année de la route du Rhum, je pourrais tourner ça autour de la route du Rhum. Vous venez, je vous fais intervenir et je vous paye 3000 euros pour le week-end. C'est quand même pas mal quand on n'a rien. Quoi. Je dis, on va y aller. Je prépare bien mon coup, je fais des trucs comme ça. Là. Et j'arrive à cette présentation, on est au mois de mai. Et je me retrouve, le directeur général m'accompagne, on se retrouve devant 300 personnes, à table, ils étaient tous attablés, et il me tend le micro. Et moi, je ne sais pas ce que je dois leur dire. Donc, je vous raconte. Ben, je leur dis, voilà, dans quelle situation je me suis mis, dans quelle panade incroyable je me suis mis. Et à la fin de mon explication, je leur dis que 4 ans auparavant, j'ai créé une association qui s'appelle L'Au-delà. Et là, tout le monde explose de rire. C'est un signe, et j'ai des mains qui se lèvent. Et des mains qui se lèvent. Il y en a un qui dit, ben, moi, je vais mettre 1000 balles. L'autre qui dit, moi aussi. Et il y a eu un challenge entre les tables. À la fin du déjeuner, on avait récolté 22 000 euros. J'étais en larmes, hein. Je vous jure. J'étais avec mes bénévoles, là, enfin, deux, trois bénévoles. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe. Et je crois que ce jour-là, il y avait des gens qui avaient envie de m'aider. Et ce que j'ai compris, ce jour-là, en fait, c'est que ces personnes-là, c'est un univers que je ne connaissais pas. Je pensais que c'était, on a entendu parler récemment sur France 3 d'ailleurs, un business. Je pensais que ça s'articulait beaucoup autour de l'argent. Je suis rentré dans une grande famille, hein. C'est-à-dire que j'ai été vraiment adopté parmi les leurs. C'est vraiment très très fort ce qui s'est passé ce jour-là. Et j'ai compris que ces gens-là sont amenés à accompagner chaque jour, on l'a tous vécu, hein, des personnes dans le deuil, dans la difficulté. Et moi, ce que je cherchais en face, j'étais dans la difficulté et je cherchais un accompagnement aussi. C'est exactement ça. Des gens professionnels de l'accompagnement et moi qui cherchais un accompagnement, finalement, on s'est bien trouvé. Ils me disent quand même, on ne veut pas voir apparaître le nom du choix funéraire sur le bateau. Ils me disent, si on le fait, c'est pour t'aider, pour te filer un coup de main, mais il n'y a pas de prémonition. On fait ça comme ça. Et c'est moi qui leur dis, au contraire, je fais un croquis, c'est exactement ça. Je fais un croquis, je dis, moi je voudrais que le bateau il soit comme ça et qu'on ait des couleurs qui tranchent. Au contraire, il faut montrer au grand public justement que vous avez fait confiance aux plus jeunes de la course, quoi. Vous auriez pu aider des gens plus âgés, non? Non, vous avez aidé le Benjamin de la course. Et ça c'est pas rien, quoi. Ça montre que c'était vraiment pour filer un coup de main, quoi. Et ça c'est chouette. Et on va faire un bateau, on va parler de vous. Et moi dans ma tête je savais bien qu'on allait parler d'eux parce que ça défrait tellement la chronique qu'il y a quelques médias qui allaient s'y intéresser. Et ils m'accompagnent, ça me permet de quand même payer une première voile. Le jeu de voile du bateau, on voit, là ça représente 200 mètres carrés quand même. Il y en a à peu près pour 50 000 euros hors taxes de voile quand même. Donc ouais, le bateau est en carbone, il faut que les voiles suivent, quoi. Donc il faut que les câbles qui tiennent le mât, ça vaut 20 000, les voiles 50 000. Voilà, l'assurance 20 000 encore, hein. C'est quand même pas rien, et sans se rémunérer. Hein. Et on arrive à faire ce chantier-là, on met le bateau à l'eau, je pars en parcours de qualification très vite, hein. Je reçois mes voiles et je pars en parcours de qualification, je casse une première fois sur le parcours de qualification, je reviens, on répare, je repars, et je me retrouve dans le bassin, prêt à prendre le départ de la route du Rhum. Et la suite, vous allez la voir en vidéo, mais ça a été assez épique. J'avais dit de manière, par la porte ou par la fenêtre, j'irai au bout de cette route du Rhum. C'était vraiment mon objectif. J'avais pas réussi une première fois. C'était ma seconde chance, mais c'était quelque part. Vous savez, ce milieu-là, c'est un peu un monde de requins, où c'est un magazine people, ce que j'appelle ça. C'est que si on se plante, on n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs. Il y a beaucoup de gens qui sont là prêts à nous fusiller, c'est vrai. Donc il fallait pas que je me plante une deuxième fois. Il fallait à tout prix pour moi que j'y arrive. Et j'ai réussi, ça c'est chouette. Voilà, et je termine sixième dans ma classe. Ça c'est la cerise sur le gâteau. Je vais quand même un paquet de temps. Hein. Et vous allez voir que j'ai dû m'arrêter en Espagne à la Corogne. Enfin, il s'est passé plein de choses. Voilà. On peut y aller. Est-ce qu'on peut éteindre la lumière, s'il vous plaît?